Le rendez-vous du libraire, c'est tous les mardis, toutes les semaines, aux alentours de 18h et des poussières, avec aujourd'hui Daniel Deloche de la librairie Deloche.
Bonjour.
Et votre serviteur, Philippe Bernadou, de la même librairie. Mon coup de cœur aujourd'hui va aller au livre de Brigitte Giraud, Nous serons des héros, aux éditions Stock. Alors, il faut toujours être très attentif au titre que choisit Brigitte Giraud. Je vous avais parlé en son temps de son roman « Pas d'inquiétude ». Pas d'inquiétude, c'est la phrase que disent les médecins aux parents d'un enfant atteint d'une maladie incurable. Aujourd'hui donc, nous serons des héros, qui est au passage un hommage posthume à notre ami commun Pierrotin Grenier, qui a écrit, lui, « Je ne suis pas un héros ». Nous serons des héros, ce pourrait être en fait le titre emblématique de toute l'œuvre de Brigitte Giraud. Chaque personne sur Terre, vous, moi, mène une vie héroïque. Peut-être simplement, le fait même de vivre est héroïque. Contrairement à ce qu'écrit Pierre Michon, il n'y a pas de vie minuscule. Mais je pense que dans l'esprit de Pierre Michon, c'était aussi une contre-proposition. Le héros de ce roman, c'est Olivio. Olivio, il a quoi, 10 ans, quand il fuit le Portugal avec sa mère, après le décès de son père, dans les prisons de Salazar. On est donc au début des années 70. Il fuit avec sa mère et Océano, son petit chat. À Lyon, où ils sont hébergés dans un premier temps par un couple de réfugiés politiques portugais, la maman refait sa vie au bout de quelques temps, comme on dit, avec Max, un rapatrié d'Algérie. Et on ne peut vraiment pas dire que ça se passe bien entre Olivio et Max. Max qui considère que son exil à lui, son déracinement, est plus douloureux que celui d'Olivio et de sa mère. Max qui considère que son fils handicapé mérite plus d'attention que son beau-fils. Et puis, c'est la révolution des œillets, la chute de Salazar, et Olivio revient le temps d'un été au Portugal, avec le fameux couple d'amis de sa mère. Et c'est un peu le désenchantement. Non seulement les gens ne font pas la fête du matin au soir, comme ils s'y attendaient, son oncle part au boulot tous les matins, comme si rien n'avait changé, mais il n'est même pas reçu avec l'aura du fils d'un martyr, du fils de celui qui est mort pour que la révolution puisse avoir eu lieu. Il semblerait même que son père, personne ne veuille en parler. Et il y a là une belle scène symbolique où lui, l'enfant plutôt chétif, va gravir la falaise sur laquelle est construite le pénitencier où son père est mort, devant le reste de sa famille qui est un peu affolée. Parce que chez Brigitte Giraud, tout passe par le corps. Je rappelle qu'elle fait de la danse. Avoir un corps, d'ailleurs, c'était le titre de son livre précédent. Et le corps adolescent d'Olivio a besoin de se construire, de s'affirmer. Comme il a besoin d'affirmer son identité sexuelle et d'en finir avec les jeux ambigus qu'il attache à son ami Ahmed. Ahmed, pas quelqu'un que Max aime bien voir non plus, celui-là. Ce n'est rien qu'un destin à peu près banal, mais la finesse de Brigitte Giraud, sa façon de nous décrire ce qui se passe juste sous la peau, les peurs, les envies, les frissons, nous amène à l'habiter, cette peau, à être un adolescent, à être un déraciné, ce que nous sommes bien au fond de nous finalement, et puis à être des héros. Nous serons des héros de Brigitte Giraud et publié chez Stock. Daniel, ton coup de cœur à toi ?
Mon coup de cœur va « Il était une ville » de Thomas Riverdi, qui est également une histoire de héros. La ville, c'est Détroit. Détroit qui est devenue une ville fantôme, emblème de la faillite industrielle et financière de certains coins des États-Unis ou d'autres endroits du monde. Et parmi les gens qui débarquent dans cette ville, voici Eugène, qui est un jeune et brillant ingénieur, envoyé par une multinationale de l'automobile, bien sûr, pour mener un vaste projet. Seulement, voilà, la ville est désertée, il n'y a pratiquement plus d'habitants, les maisons tombent et l'immeuble dans lequel il se trouve n'est pas non plus en très bon état. Et dans ce milieu fort hostile, il va rencontrer d'autres habitants, notamment la belle Candice, la serveuse au sourire rouge. Il va y avoir aussi Charlie, un jeune garçon qui ne va pas trop à l'école et qui va disparaître, et un vieux flic qui, malgré le manque de moyens de la police, essaie de percer le mystère de tous ces gamins qui disparaissent. sur cette scène apocalyptique, comme dans Les Évaporés, son précédent roman qui se situait dans le Japon d'après le tsunami. Les descriptions sont imagées, sensibles, et nous allons suivre Eugène et Charlie dans leur mésaventure et leur capacité à survivre en milieu hostile, ce qui en fait des héros. Il y a moins d'humour et de légèreté que dans Les Évaporés, mais le milieu est quand même un petit peu moins terrifiant. Jean Reverdy prouve ainsi qu'il est le reporter poète des désastres de notre époque. Voici, je vous ai donc parlé de « Il était une ville » de Thomas Reverdy, un très beau livre.
Et c'est l'heure de la rubrique mensuelle « Ça a débuté comme ça, ça débute mal ». C'est le début du « Voyage au bout de la nuit » de Céline. Et j'ai choisi ce titre pour présenter le début d'un roman, pour vous donner envie d'en lire la suite. Ce serait plutôt aujourd'hui « Le voyage au bout de la dèche ». Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie d'Ivry. Pendant une certaine période de ma vie, j'ai vu mon revenu divisé par 3 et mon appartement passer de 80 à 12 mètres carrés. Pour des raisons que nous verrons plus tard, je n'étais pas malheureuse, mais j'étais pauvre. Or, un matin d'avril, alors que je rentrais de la bibliothèque, une facture de régularisation d'EDF m'attendait dans ma boîte aux lettres. Ces salopards me demandaient 260 euros. Mon compte en banque en contenait 300. En tremblant, je remplis le chèque, le signai, le postai, puis je me dis qu'il fallait vraiment que je trouve du travail. Alors je fis ce que tout le monde aurait fait à ma place, j'allumai mon ordinateur. Sur le site pôle-emploi.fr, je tapai mon identifiant, mon code secret, mon code postal, pour parvenir sur mon espace personnel de chômeuse longue durée. Là, je lançai une recherche multicritère, en commençant par écrivain public, journaliste, puis professeur. Cela donna entre 0 et 6 résultats, aucun sur Lyon, ni sans la mention permis B obligatoire. Mes yeux se brouillaient. J'élargis ma recherche, responsable communication, surveillant d'internat, secrétaire, détective privé. Je n'arrivais plus à lire tant le stress serrait mon ventre, car pendant que le site moulinait pour sortir d'improbables offres, mon cerveau refaisait sans cesse la soustraction. 300 moins 260 égale 40. Cela fait partie des romans sociaux, si on peut dire, qui ont paru cette rentrée, comme les Maîtres du Printemps dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Tout à fait ancré dans la réalité quotidienne et dans le monde que nous vivons. Et quant au titre, quand le diable sortit de la salle de bain, à savoir si ça a à voir avec DSK, ben lisez le livre. C'est de Sophie d'Ivry chez Notabilia. Et nous passons maintenant aux actualités, Daniel.
Alors, eh bien, dès demain, mercredi 21, à 17h30, venez rencontrer à la librairie Émile Mottet qui vient nous présenter Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin. Émile Mottet vient dans le cadre de la compagnie des écrivains du Tarn-et-Garonne nous parler d'un livre surpuissant qui nous raconte la conquête du Brésil, ou du moins un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Renaissance. C'est l'histoire de deux enfants, Juste et Colombe, qui sont embarqués de force dans une expédition pour servir d'interprète auprès des tribus indiennes. Tout est démesuré dans cette histoire. Le cadre, l'abbé sauvage de Rio, encore livré aux jungles et aux indiens cannibales. Les personnages, et pour commencer, le chevalier de Villagagnon, chef de cette expédition, nostalgique des croisades, pétri de culture antique, précurseur de Cyrano ou de D'Artagnan. Et aussi les événements. Le huis clos dramatique de cette France des tropiques est une répétition générale avec 10 ans d'avance des guerres de religion. Fourmillant de portraits, de paysages, d'actions, Rouge Brésil est écrit dans une langue à l'ironie voltairienne et prend la forme d'un roman d'éducation et d'amour. Je vous conseille donc de venir écouter Émile Mottet nous présenter Rouge Brésil et de lire ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. À bientôt.
Dès le surlendemain, vendredi 23 octobre à 17h, toujours à la Cavalière de la librairie de Loche, nous recevons Anne Lasservergne. Anne Lasservergne vient d'écrire 2 livres. Le premier, D'ombre et de lumière, est un roman policier. Il s'agit du procès de Zoé, qui est là, à la barre, indifférente, et qui se demande bien ce qu'on lui veut, et le temps de ce procès va défiler toute sa vie, le puzzle de son existence, une vie où elle finira par gagner sa liberté, mais qui l'amènera au drame. Et elle présentera aussi un autre livre, 103 écrivains. 103 écrivains, c'est une lecture des Pyrénées d'ouest en est, une anthologie de des écrivains classiques ou jusqu'au XXe siècle. Il y a du Claude Simon aussi. Donc d'une anthologie de textes sur les Pyrénées que vous pouvez lire à votre fantaisie, en parcourant les vallées, en gravissant les monts, au gré des siècles et des auteurs retenus. C'est publié aux éditions Kern, d'Ombre et de Lumière, aux éditions La Lucane. Ben, avant de nous quitter, Daniel, peux-tu reparler de redonner le titre du livre que tu nous as conseillé?
Je vous ai conseillé Thomas Reverdy, Il était une ville, publié aux éditions Flammarion.
Mon coup de cœur à moi, c'est et Brigitte Giraud, Nous serons des héros, publié chez Stock, et je vous ai lu le début de Quand le diable sortit de la salle de bain, de Sophie Divry, chez Notabilia. Rendez-vous mardi prochain, au revoir.
Au revoir.